Voici un enseignement donné dans le cadre de l'église réformée baptiste de Neuchâtel. Avant d'entendre cet enseignement, vous entendrez la lecture de textes bibliques, fondement infaillible de ce qui sera ensuite partagé, avec l'humble désir que cela soit profitable dans la main de Dieu pour celui qui l'écoute.
Aujourd'hui, nous allons vivre un culte particulier. Un culte où nous lirons des textes bibliques entrecoupés de chants. Nous lirons en fait les textes des évangiles qui nous parlent de l'enfance et de la jeunesse de Jésus-Christ. Quand nous aurons terminé de lire tous ces textes, tout ce que vous entendrez qui n'est pas contenu dans ces textes est beaucoup moins sûr et souvent même faux. Tout ce que nous savons de l'enfance et de la jeunesse de Jésus, vous l'entendrez ce matin. Et tout ce que vous entendrez en dehors de cela, eh bien c'est quelque chose qui n'est pas inspiré par le Saint-Esprit comme étant infaillible. Alors vous pouvez lire les textes dans votre Bible. Nous utilisons généralement la traduction de la Colombe, ou la seconde révisée 78. Mais aujourd'hui, nous entendrons des lectures dans une autre traduction. Donc vous serez un petit peu perturbés si vous suivez dans vos Bibles. J'ai choisi aujourd'hui de prendre une traduction que j'aime utiliser avec les enfants à l'école du dimanche, puisqu'elle est une traduction simplifiée, avec beaucoup moins de termes en fait. Donc c'est une traduction qui est intéressante pour entrer dans ces textes de manière simple. Ce n'est pas une traduction qu'on utilise pour faire une étude de mots, évidemment. Mais c'est quelque chose qui nous permet d'entrer dans ce texte. Nous utiliserons la traduction « Parole de vie ». Chaque lecteur, donc on aura plusieurs personnes qui viendront lire ici, et chaque lecteur cherchera à rendre le récit vivant, il lira paisiblement et sans stresser. Nous pourrons ainsi entrer dans ces textes qui nous parlent de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Et je vous mets un défi. Donc là, il faut être attentif. Un défi, c'est qu'on va entendre beaucoup de textes. Et généralement, on a une prédication qui nous explique le texte, qui nous donne des illustrations et qui nous donne des applications de ces textes. Eh bien, le défi, c'est que vous pensiez à des applications en écoutant ces textes. Je vais bien sûr vous donner quelques exemples à la fin pour qu'on puisse quand même être conduit. Mais je ne vous donnerai pas tous les exemples que vous pourriez avoir. Donc après le culte, n'hésitez pas à partager autour de vous les applications que vous avez pu comprendre de ces textes pour vos vies. Voilà, nous commençons évidemment par l'annonce de la naissance de Jésus homme. Puisque Jésus existait déjà avant sa naissance. Il est fils de Dieu depuis toujours. Nous l'avons vu dimanche passé en parlant du papa de Jésus. Aujourd'hui, nous nous centrons sur son existence humaine qui a commencé il y a environ 2000 ans. Et voici ce qui s'est passé. Et nous entendons pour une première lecture, Roland.
Nous lisons dans Luc 1, les versets 26 à 38. Luc, chapitre 1, versets 26 à 38. Élisabeth est enceinte depuis 6 mois. Voici que Dieu envoie l'ange Gabriel dans une ville de Galilée, appelée Nazareth. Il l'envoie chez une jeune fille promise en mariage à un homme appelé Joseph. Joseph a pour ancêtre le roi David, et le nom de la jeune fille est Marie. L'ange entre chez elle et lui dit « Réjouis-toi, le Seigneur Dieu t'a montré son amour d'une manière particulière, il est avec toi. » En entendant cela, Marie est très émue. Elle se demande « Que veut dire cette façon de saluer ?» L'ange lui dit « N'aie pas peur, Marie, oui. » Dieu t'a montré son amour d'une manière particulière. Tu vas attendre un enfant. Tu mettras au monde un fils et tu l'appelleras Jésus. Personne ne sera aussi important que lui. On l'appellera Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le royaume de David, son ancêtre, Il sera le roi du peuple d'Israël pour toujours, et son pouvoir ne finira jamais. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il arriver ? En effet, je ne vis pas avec un homme. » L'ange lui répond, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira comme l'ombre. » C'est pourquoi l'enfant qui va naître sera saint et on l'appellera fils de Dieu. Écoute, Élisabeth, qui est de ta famille, elle aussi est enceinte et elle aura un fils. Pourtant, elle est vieille. On disait qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant et maintenant, elle est enceinte depuis 6 mois. Non, rien n'est impossible pour Dieu. » Marie répond, « Je suis la servante du Seigneur. Que Dieu fasse pour moi ce que tu as dit. » Alors l'ange la quitte.
L'ange vient d'arriver, il a parlé à Marie et il vient de repartir. Retournons à la parole et rappelons-nous que Marie devait être maintenant à peine enceinte. Et c'est Darius qui va nous suivre, qui va nous lire la suite dans Luc 1. À partir du verset 39.
Luc 1, verset 39 à 56. Peu de temps après, Marie s'en va. Elle marche vite vers les montagnes dans une ville de Judée. Elle entre dans la maison de Zacharie et salue Élisabeth. Quand Élisabeth entend la salutation de Marie, l'enfant remue dans son ventre. Alors Élisabeth est remplie de l'Esprit Saint. Elle dit d'une voix forte, « Dieu te bénit plus que toutes les autres femmes, et il bénit aussi l'enfant que tu portes en toi. La mère de mon Seigneur vient chez moi. Quel honneur pour moi. Oui, quand mes oreilles ont entendu ta salutation, l'enfant a remué de joie dans mon ventre. Tu es heureuse. En effet, tu as fait confiance au Seigneur et ce qu'il t'a dit arrivera. » Marie dit alors, « Oui, vraiment, le Seigneur est grand. Je le chante. Mon cœur est dans la joie à cause de Dieu qui me sauve. Il a fait attention à moi, sa servante, sans importance. Oui. À partir de maintenant, les gens de tous les temps diront mon bonheur. Le Dieu Tout-Puissant a fait pour moi des choses magnifiques. Son nom est saint. Il sera plein de bonté pour toujours envers ceux qui le respectent avec confiance. Il agit avec beaucoup de puissance. Il chasse ceux qui ont le cœur orgueilleux. Il renverse les rois de leur siège et il relève les petits. Il donne beaucoup de richesses à ceux qui ont faim. Il est riche, il les renvoie les mains vides. Il vient au secours du peuple d'Israël, son serviteur. Il n'oublie pas de montrer sa bonté. Voilà ce qu'il a promis à nos ancêtres, à Abraham et à sa famille pour toujours. » Marie reste avec Élisabeth pendant 3 mois environ, puis elle retourne chez elle. La parole du Seigneur.
Marie loue Dieu. Marie est restée quelques mois, à peu près 3 mois, donc à peu près jusqu'à 9 mois de grossesse d'Élisabeth. Et pendant ce temps, eh bien, des choses se passent ailleurs. Et nous allons dans l'évangile de Matthieu qui nous parle aussi de ce qui s'est passé avec Marie et qui nous parle après de ce qui s'est passé avec son fiancé, son père éducatif et légal. Lisons Matthieu 1, 18 à 25, et nous écoutons Joël.
Lisons Matthieu au chapitre 1, versets 18 à 25. Voici comment Jésus-Christ est né. Marie, sa mère, est promise au mariage à Joseph. Mais avant d'habiter avec Joseph, Marie attend un enfant par la puissance de l'Esprit-Saint. Joseph, son fiancé, est un homme juste. Il ne veut pas accuser Marie devant tout le monde. Alors il décide de la renvoyer en secret. Au moment où il pense à cela, l'ange du Seigneur se montre à lui dans un rêve. L'ange lui dit « Joseph, fils de David, n'aie pas peur de prendre chez toi Marie ta femme. Oui, l'enfant qui est dans son ventre vient de l'Esprit Saint. Elle va mettre au monde un fils et toi tu l'appelleras Jésus. En effet, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Ainsi se réalise ce que la prophétie, ce que le prophète a dit de la part du Seigneur. La jeune fille attendra un enfant, elle mettra au monde un fils. On l'appellera Emmanuel, ce qui veut dire « Dieu avec nous ». Quand Joseph se réveille, il fait ce que l'ange du Seigneur lui a commandé. Il prend sa femme chez lui, mais il ne s'unit pas à elle, jusqu'au jour où Marie met au monde un fils. Joseph donne à l'enfant le nom de Jésus.
Comme nous lisons dans deux évangiles, dans Matthieu, il est déjà né, et dans Luc, d'abord, il y a un voyage avant qu'il naisse. Donc, nous revenons un petit peu en arrière pour voir son voyage, et nous entendons la lecture de Luc 2, de 1 à 7, par Samuel.
Luc 2, 1 à 7. À cette époque, l'empereur Auguste donne l'ordre de compter les habitants de tous les pays. C'est la première fois qu'on fait cela. À ce moment-là, Quirinius est gouverneur de Syrie. Tout le monde va se faire inscrire, chacun dans la ville de ses ancêtres. Joseph quitte donc la ville de Nazareth en Galilée pour aller en Judée, à Bethléem. C'est la ville du roi David. En effet, David est l'ancêtre de Joseph. Joseph va se faire inscrire avec Marie, sa femme, qui attend un enfant. Pendant qu'ils sont à Bethléem, le moment arrive où Marie doit accoucher. Elle met au monde un fils, son premier enfant. Elle l'enveloppe dans une couverture et elle le couche dans une mangeoire. En effet, il n'y a pas de place pour eux dans la salle où logent les gens de passage.
Vous m'avez déjà entendu dire, et je continuerai à le dire, que Dieu a envoyé un faire-part d'eux-mêmes. Un faire-part céleste vivant avec des anges qu'il a envoyés aux bergers. Au même moment, une étoile aussi est apparue dans le ciel. Nous en parlerons tout à l'heure. Mais nous allons maintenant voir le faire-part céleste de Christ. Et c'est Martin qui nous lira Luc 2, 8 à 20.
Luc 2, verset 8. Dans la même région, il y a des bergers. Ils vivent dans les champs et pendant la nuit, ils gardent leurs troupeaux. Un ange du Seigneur se présente devant eux. La gloire du Seigneur les enveloppe de lumière, alors ils ont très peur. L'ange leur dit, « N'ayez pas peur. Oui, je viens vous annoncer une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout votre peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, un sauveur est né pour vous, c'est le Christ, le Seigneur. Voici comment vous allez le reconnaître. Vous trouverez un petit enfant enveloppé dans une couverture et couché dans une mangeoire. Tout à coup, il y a avec l'ange une troupe nombreuse qui vient du ciel. Ils chantent la louange de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre paix à ceux que Dieu aime. Ensuite, les anges quittent les bergers et retournent au ciel. Alors les bergers se disent entre eux, « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé et ce que le Seigneur Dieu nous a fait connaître. » Ils partent vite et ils trouvent Marie, Joseph et le petit enfant couchés dans la mangeoire. Quand ils le voient, ils racontent ce que l'ange leur a dit sur cet enfant. Tous ceux qui entendent les bergers sont étonnés de leurs paroles. Marie retient tout ce qui s'est passé, elle réfléchit à cela dans son cœur. Ensuite, les bergers repartent. Ils rendent gloire à Dieu et chantent sa louange pour ce qu'ils ont vu et entendu. En effet, tout s'est passé comme l'ange l'avait annoncé.
8 jours après la naissance, Joseph veille à ce que la loi soit accomplie. Il est écrit dans Luc 2, 21, une semaine plus tard, « C'est le moment de circoncire l'enfant. on lui donne le nom de Jésus. C'est le nom que l'ange a indiqué à Marie avant qu'elle soit enceinte. Et 33 jours après la circoncision, que se passe-t-il? Eh bien, nous allons écouter Florian qui va nous lire dans Luc 2, à partir du verset 22.
Luc 2, versets 22 à 24. Après cela, le moment arrive où Marie et Joseph doivent faire la cérémonie de purification comme la loi de Moïse le demande. Alors, ils amènent l'enfant à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. En effet, la loi du Seigneur dit « Il faut donner au Seigneur le premier garçon né dans une famille ». Marie et Joseph offrent aussi le sacrifice que la loi du Seigneur demande, deux tourterelles ou deux jeunes pigeons.
Tout ce qui est demandé dans le Lévitique concernant la purification de la maman après la naissance de son enfant est respecté. Rien n'est oublié. Jésus, dès sa naissance, vit complètement la loi de l'Ancienne Alliance. Et il rencontre des personnes dans le temple. Et voilà les premières personnes que Jésus rencontre dans le temple qui sont nommées. Et la première personne, eh bien, nous allons la découvrir par la lecture de Luc 2 à partir du verset 25. Et je laisse la place à François pour la lecture.
Luc 2, 25 à 35. À Jérusalem, il y a un homme appelé Siméon. Cet homme est juste et fidèle à Dieu et il attend celui qui doit être la force du peuple d'Israël. L'Esprit Saint est avec Siméon et il lui a dit à l'avance, « Tu ne mourras pas avant de voir le Messie du Seigneur Dieu. » Alors, Siméon, poussé par l'Esprit Saint, va dans le temple. À ce moment-là, les parents de Jésus amènent leur enfant pour faire ce que la loi du Seigneur demande pour lui. Siméon prend l'enfant dans ses bras. Il remercie Dieu en disant, « Maintenant, Seigneur, tu peux laisser ton serviteur mourir dans la paix, comme tu l'as dit. Oui, mes yeux ont vu le salut que tu nous donnes. Tu l'as préparé devant tous les peuples. C'est la lumière qui te fera connaître au monde entier. C'est la gloire de ton peuple d'Israël. » Le père et la mère de l'enfant sont étonnés de ce que Siméon lui dit de lui. Siméon les bénit et il dit à Marie, la mère de Jésus, « À cause de ton enfant, beaucoup en Israël vont tomber ou se relever. Il sera un signe de Dieu, mais les gens le rejetteront. Ainsi on connaîtra les pensées cachées dans le cœur de beaucoup de personnes. Et toi, Marie, la souffrance te transpercera comme une lance. » La parole du Seigneur.
Que rencontrer Siméon? Il a rencontré une deuxième personne dans ce temple. Et c'est Stan qui nous lira Matthieu 2 à partir du verset 13 pour découvrir cette deuxième personne.
Luc 2, 36 à 38. Il y avait une femme prophète qui s'appelle Anne. C'est la fille de Phanuel de la tribu d'Azar. Elle était très vieille. Elle a vécu avec son mari pendant 7 ans, puis elle est devenue veuve. Elle a 84 ans. Anne ne quitte pas le temple et elle sert Dieu nuit et jour en jeûnant et en priant. Elle est là en même temps que Siméon et se met à remercier Dieu. Elle parle de l'enfant à tous ceux qui attendent la libération de Jérusalem.
Elle en parle à tout le monde, tous ceux qu'elle croise. Et pendant ce temps où toutes ces choses se sont passées que nous avons lues, eh bien, il y a des personnages importants qui, en fait, font un voyage. Ils font un voyage pour venir jusque-là. Et nous allons maintenant lire ces textes qui nous parlent de cela dans Matthieu 2, et nous lirons à partir du verset 1, pour découvrir le voyage des mages qui sont venus jusqu'à Jésus. Ce ne sont pas les rois mages, ça c'est de la tradition, ce sont des mages. Voilà, nous entendons la lecture par Christian.
Jésus naît à Bethléem, en Judée, au moment où Hérode le Grand est roi. Alors des sages viennent de l'Est et arrivent à Jérusalem. Ils demandent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile se lever à l'Est et nous sommes venus l'adorer. » Quand le roi Hérode apprend cela, il est troublé, et tous les habitants de Jérusalem aussi. Le roi réunit tous les chefs des prêtres de son peuple avec les maîtres de la loi. Il leur demande « À quel endroit est-ce que le Messie doit naître ?» Ils lui répondent « Le Messie doit naître à Bethléem, en Judée. » En effet, le prophète a écrit « Et toi, Bethléem, du pays de Juda, tu n'es sûrement pas la moindre importante des villes de Juda. Oui, un chef va venir de chez toi. Il sera le berger de mon peuple Israël. » Alors Hérode fait appeler les sages en secret. Il leur demande « À quel moment est-ce que l'étoile est apparue ?» Ensuite, il les envoie à Bethléem en disant « Allez vous renseigner exactement sur l'enfant. Quand vous l'aurez trouvé, venez me prévenir et moi aussi j'irai l'adorer. » Après ces paroles du roi, les sages se mettent en route. Ils aperçoivent l'étoile qu'ils ont vue à l'est. Ils sont remplis d'une très grande joie en la voyant. L'étoile avance devant eux. Elle arrive au-dessus de l'endroit où l'enfant se trouve, et elle s'arrête là. Les sages entrent dans la maison, et ils voient l'enfant avec Marie, sa mère. Ils se mettent à genoux et l'adorent, et adorent l'enfant. Ensuite, ils ouvrent leur bagage, ils lui offrent des cadeaux, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Après cela, Dieu les avertit dans un rêve de ne pas retourner chez Hérode. Alors ils prennent un autre chemin pour rentrer dans leur pays.
Les mages sont venus rendre visite à Jésus avec leurs cadeaux. Mais que s'est-il passé ensuite? Eh bien, nous l'entendrons par la bouche de Pierre-Alain qui lira le texte de Matthieu 2, 13 à 23.
Matthieu 2, 13 à 18 ou 23. Quand les sages sont partis, l'ange du Seigneur se montre à Joseph dans un rêve. L'ange lui dit « Lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère. Pars vite pour l'Égypte. Reste là-bas. Je te dirai quand tu dois revenir. En effet, Hérode va chercher l'enfant pour le faire mourir. » Joseph se lève. Il prend avec lui l'enfant et sa mère et il part pour l'Égypte pendant la nuit. Il reste là-bas jusqu'à la mort d'Hérode le Grand. Ainsi se réalise ce que le prophète a dit de la part du Seigneur. « J'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. » Quand Hérode voit que les sages l'ont trompé, il est très en colère. Les sages lui ont dit à quel moment l'étoile est apparue. C'est pourquoi il donne l'ordre de tuer tous les enfants qui ont 2 ans, au moins, à Bethléem et dans les environs. Ainsi s'est réalisée cette parole du prophète Jérémie. Dans Rama, on entend une plainte, des pleurs amers et des cris de deuil. C'est Rachel qui pleure sur ses enfants. Elle ne veut pas être consolée parce qu'ils ne sont plus.
Et justement, Jésus est sorti d'Égypte, mais comment cela s'est-il passé? Eh bien, nous l'entendrons par la bouche de Stanislas qui nous lira les versets de Matthieu 2, 19 à 23, et nous aurons encore un petit bout de Luc 2, 39 à 40.
Après la mort d'Hérode, l'ange du Seigneur se montre à Joseph dans un rêve en Égypte. L'ange lui dit « Lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère et retourne dans le pays d'Israël. En effet, ceux qui voulaient tuer l'enfant sont morts. » Joseph se lève, il prend avec lui l'enfant et sa mère et il retourne dans le pays d'Israël. Mais il apprend qu'Archélaos est roi de Judée depuis la mort d'Hérode son père. Alors Joseph a peur d'aller en Judée. Le Seigneur lui parle dans un rêve et Joseph va dans la région de Galilée. Il vient habiter dans une ville qui s'appelle Nazareth. Ainsi, les choses se passent comme les prophètes l'avaient annoncé. On l'appellera Nazaréen. Quand les parents de Jésus ont fait tout ce que la loi du Seigneur demande, ils retournent en Galilée, à Nazareth, leur ville. L'enfant grandit et se développe. Il est rempli de sagesse et le Dieu d'amour est avec lui.
Jésus est allé en Égypte. Il est revenu. il est revenu pour aller en Galilée. Tout ce qui était annoncé s'accomplit. Et tout ce que Jésus a vécu avant 12 ans, c'est ce que nous avons entendu. Si vous entendez d'autres choses, ce ne sont pas des choses qui viennent de la parole de Dieu. Et nous allons le rencontrer à 12 ans. À 12 ans, nous rencontrons Jésus qui vit quelque chose. Il vit quelque chose parce que ses parents étaient pieux et allaient chaque année à Jérusalem pour la Pâque. Et c'est Marc qui va nous lire les textes de Luc 2, 41 à 50.
Chaque année, les parents de Jésus vont à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand Jésus a 12 ans, il vient avec eux, comme c'est la coutume. Après la fête, ils repartent, mais l'enfant Jésus reste à Jérusalem et ses parents ne s'en aperçoivent pas. Ils pensent que l'enfant est avec les autres voyageurs. Ils marchent pendant une journée, puis ils se mettent à le chercher parmi les parents et parmi leurs parents et leurs amis, mais ils ne le trouvent pas. Alors ils retournent à Jérusalem en le cherchant. Le troisième jour, ils trouvent l'enfant dans le temple. Il est assis au milieu des maîtres juifs, il les écoute et leur pose des questions. Tous ceux qui entendent l'enfant sont surpris par ses réponses pleines de sagesse. Quand ses parents le voient, ils sont vraiment très étonnés et sa mère lui dit « Mon enfant, pourquoi est-ce que tu nous as fait cela? Regarde, ton père et moi, nous étions très inquiets en te cherchant. » Il leur répond « Vous m'avez cherché? Pourquoi? Vous ne savez donc pas que je dois être dans la maison de mon père ?» Mais ses parents ne comprennent pas cette parole.
À 12 ans, Jésus est au temple. Nous voyons qu'il a conscience de qui est son Père céleste. Pour revenir à dimanche passé pour penser à tout cela. Mais qu'a-t-il fait après, entre 12 ans et le début du ministère? Eh bien, nous allons l'entendre par la bouche d'Alex qui va nous lire les versets 51 et 52 de Luc 2.
Luc, chapitre 2, versets 51 et 52. Ensuite, Jésus retourne avec eux à Nazareth. Il obéit à sa parole. Sa mère garde toutes ses chaussures de ce cœur. Jésus grandit, sa sagesse se développe et il se rend agréable à Dieu et aux hommes. Amen.
Vous savez maintenant tout de Jésus-Christ, de sa naissance, de son enfance, de sa jeunesse. Merci à tous les lecteurs qui étaient en fait tous des hommes membres ou membres en devenir, en attente pour devenir membre de l'Église. Il y a encore deux autres hommes qui n'ont pas lu, c'est pas parce que je voulais pas qu'ils lisent, mais c'est qu'il me faut encore des textes. C'est Loïc et Clint qui sont aussi membres de l'Église, comme ça on les oublie pas. Vous vous souvenez du défi que je vous ai donné? Oula, faut revenir en arrière, ou bien revenir en avant, ça dépend à quelle échelle de temps nous nous trouvons. Revenir à aujourd'hui. Qu'est-ce que ces textes peuvent nous dire aujourd'hui? Qu'est-ce que nous retirons? Quelle application nous allons vivre? Je vais vous donner quelques exemples. Je vais vous en donner trois. J'en ai noté 11 ici, mais voilà, on ne va pas tout voir ça. J'en donne juste 3. Et je vous encourage aussi à chacun à partager autour de vous. Apprenez aussi, lorsque vous écoutez des prédications, à pas seulement passivement recevoir les choses. Apprenez aussi à réfléchir pendant la prédication, quand vous entendez les textes, à voir, mais qu'est-ce que ça signifie? Et puis le groupe d'hommes est en train d'étudier à comment avoir une application qui ne soit ni moralisante, ni une application qui sorte de quelque chose qui n'est pas biblique. Hein. Mais je ne vais pas faire maintenant le développement. Alors voilà 3 possibilités, et vous en aurez d'autres. Un premier, c'est en lien avec Marie qui a reçu le messager de Dieu, qui lui a dit, donc Marie a dit à ce messager, lorsqu'il est venu lui parler, une phrase qui est extraordinaire. Elle lui a dit, « Je suis la servante du Seigneur, que Dieu fasse pour moi ce que tu as dit. » Commencez à avoir une application possible. Que cette phrase nous accompagne, que nous soyons à l'écoute de la parole de Dieu, Dieu qui nous parle encore aujourd'hui, par sa parole, et que nous puissions dire « Je suis la servante, le serviteur du Seigneur, que Dieu fasse pour moi ce qu'il a dit. » Je ne vais pas développer beaucoup, je vous laisse prendre ça avec vous. Une deuxième que je vous propose, c'est les bergers. Les bergers, en fait, ont reçu une nouvelle extraordinaire. Et qu'ont-ils fait ? Ils n'ont pas tardé à aller voir ce qui leur était annoncé. Quand nous recevons une nouvelle extraordinaire, la nouvelle de l'œuvre de Christ pour nous, pourquoi n'irions-nous pas tout de suite à la croix, au tombeau, et voir ce qu'il a accompli, saisir ce qu'il a fait par la repentance et par la foi dans le pardon en Jésus-Christ. Et comme les bergers, nous pouvons être émerveillés, remplis de joie, témoignant de l'œuvre accomplie par Dieu. Les bergers, lorsqu'ils sont partis, ils ont fait quoi ? Soit les souper, puis voilà, ils ont compté leurs moutons. Mais non, ils ont commencé à parler autour d'eux de tout ce qu'ils ont vu. Bien que nous ayons ce même réflexe après ce que Dieu a annoncé et accompli. Et une troisième, il y en a bien d'autres, hein, vous pourrez en parler les uns aux autres, vous pourrez parler de Siméon, de Anne, des mages, etc. Mais quand nous voyons comment Dieu a pris soin de Jésus par Joseph, qu'il l'a protégé en l'emmenant en Égypte, puis retourné en Galilée, où il a donné un cadre pour le développement de Jésus-Christ, nous pouvons aussi être reconnaissants pour tout ce que Dieu nous a donné pour notre développement. C'est une grâce de Dieu. Il l'a fait pour son Fils parfaitement. Il le fait pour nous aussi. Je vous invite maintenant à prendre un temps, nous pouvons prier. Peut-être dans vos prières, vous pouvez amener des choses aussi qui vous ont parlé. N'hésitez pas à le faire. Mais louons Dieu pour sa venue sur cette terre. Louons Dieu qui nous a donné aussi sa parole, qui nous donne les éléments clés et clairs de qui est Jésus-Christ, de ce qu'il a vécu dans sa jeunesse, dans son enfance, qui est suffisant pour ce dont nous avons besoin. Alors prenons un temps de prière libre, que chacun se sente libre de prier maintenant.
L'enseignement est maintenant terminé. Si vous désirez profiter d'autres ressources de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel, n'hésitez pas à visiter le site www.erbn.ch. Que l'Éternel vous bénisse dans sa grâce.